Bonjour à tous, bonjour à toutes et bienvenue sur Cyclotopo. Cyclotopo est le podcast consacré au voyage à vélo. Je suis Claire Guillebeau, la créatrice de ce podcast, et je vous emmène avec moi dans mes sacoches à la rencontre des voyageurs et des voyageuses à vélo. Sur quelques jours ou au long cours, en France ou à l'étranger, ils partagent avec nous leurs découvertes, leurs rencontres, leurs galères et leurs anecdotes. Accrochez bien vos sacoches ou votre remorque, nous partons voyager à vélo. Cette semaine, Adrien nous emmène avec lui faire le tour de l'Europe à vélo. Ce trentenaire, sportif et passionné par la randonnée, est tombé amoureux du voyage à vélo, grâce à la Vélodyssée. Après une première aventure de 15 jours de Roscoff à Hendaye, il a eu l'idée de partir plusieurs mois découvrir l'Europe à vélo. Ce tour d'Europe, Adrien l'a fait avant tout pour son neveu Xavier. Xavier est un jeune autiste de 15 ans, lui-même adorant faire du vélo. Adossé à son tour d'Europe à vélo, Adrien a créé le projet Cycling for Autism, permettant de sensibiliser à l'autisme et de récolter des fonds pour l'association Des Rêves pour Xavier. Dans cet épisode, Adrien et son gravel, Jean-Michel, nous emmènent traverser l'Europe de l'ouest à l'est jusqu'en Grèce, puis du sud au nord jusqu'au Cap Nord. Et pour boucler la boucle, Adrien nous racontera son retour à Blois, en passant notamment par les fjords et autres paysages spectaculaires de la Norvège. Je vous souhaite une excellente écoute. Bonjour Adrien.
Bonjour Claire.
Je suis ravie de t'accueillir aujourd'hui dans ce nouvel épisode du podcast de Cyclotopo.
Eh bien, ravie également d'être là. Merci de me recevoir.
Tu vas nous parler de ton tour d'Europe à vélo que tu as fait pour alerter, sensibiliser et informer sur l'autisme. Donc, tu vas nous raconter ça dans cet épisode de Cyclotopo. Mais tout d'abord, est-ce que tu pourrais te présenter pour nos auditeurs? D'où viens-tu? Que fais-tu dans la vie? Et depuis quand voyages-tu à vélo?
Alors, je m'appelle Adrien, j'ai 38 ans, j'habite à Bordeaux. Alors, dans la vraie vie, je suis commercial dans l'informatique et je voyage à vélo depuis un an et demi. Donc, c'est pas si vieux que ça.
Et comment tu as découvert le voyage à vélo il y a un an et demi? Et surtout, qu'est-ce qui t'a donné envie de voyager à vélo?
Bah, j'ai toujours fait pas mal de sport et de... essayer de découvrir un petit peu la nature, notamment la rando, etc. Et l'été dernier, je devais partir au Groenland pour faire une petite expédition et qui a été annulée avec le Covid. Et donc, j'ai pris mon vélo, j'ai mis des sacoches et je suis allé faire la Vélodyssée en France. Il faisait beau et c'était magnifique. Donc, ça m'a donné envie de renouveler l'expérience.
Tu es parti d'où pour faire la Vélodyssée?
Alors, je l'ai faite en entier sur la France, donc de Roscoff à Hendaye. Donc, j'ai vraiment fait toute la trace en 15 jours. Et voilà, donc j'ai eu beaucoup de chance. C'était deuxième quinzaine d'août, il a fait hyper beau. Donc, j'en ai profité à fond. J'ai découvert des endroits que je connaissais pas du tout, Noirmoutier, la Vendée, tout ça. Donc, voilà, c'était vraiment génial.
Bah, disons que c'est déjà un grand voyage pour un premier voyage à vélo.
Ouais, bah comme je te disais, j'aime bien faire des, enfin pas mal de rando, de sport, etc. Donc ouais, ça me fait pas peur de me lancer sur des traces un petit peu longues comme ça.
Est-ce que c'est ce voyage qui t'a donné envie par la suite de partir pour un plus grand voyage ou tu avais déjà l'idée de faire une petite pause et de partir pour un projet de plusieurs mois?
Non, alors l'été dernier, quand je suis parti faire la Vélodyssée, j'avais déjà en tête de partir et de prendre 6 mois off cette année. Proche de la quarantaine, ça fait 15 ans que je travaille, donc j'avais envie de faire une petite pause dans la vie ultra trépidante et sans jamais avoir le temps de rien faire qu'on peut avoir au quotidien. Et donc, à la base, je voulais aller faire une rando de 6 mois aux États-Unis qui s'appelle le Pacific Crest Trail. Et puis, avec les histoires de Covid, les frontières fermées, une prise de conscience un peu écologique où je me dis que partir en Europe avec pas mal de pays où je suis jamais allé, le voyage à vélo, la Vélodyssée qui a été un petit peu un déclencheur en mode en fait le voyage à vélo c'est génial. J'ai un genou qui est un petit peu récalcitrant par moment, donc voilà, en fait c'était moins traumatisant et parfait pour. Pour ce défi-là, je voulais vraiment, pour ce voyage de 6 mois et ces 6 mois off, me lancer dans un défi sportif. Donc voilà, c'est comme ça un petit peu qu'est née l'idée du Tour d'Europe à vélo.
Et quel défi, du coup, vu qu'en 2022, tu es justement parti, comme tu nous dis, pour faire un tour d'Europe à vélo. Et on va en parler plus longuement pour alerter et sensibiliser sur la vie quotidienne des autistes et de leurs familles. On a parlé du voyage à vélo. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu du projet autour de l'autisme que tu as développé avec ce voyage ?
J'ai voulu assez vite, quand j'ai eu cette idée de voyage, associer un but un petit peu, mettre du sens à ce voyage. Et donc, naturellement, j'en ai parlé à mon frère Grégoire, qui a un enfant de 15 ans, Xavier, donc mon neveu, qui est autiste sévère. Donc voilà, il n'a pas été scolarisé, avec des troubles du comportement et voilà, c'est un quotidien qui est difficile pour la famille. Et puis moi, en étant une famille, on va dire assez proche, je me suis toujours senti un petit peu impuissant par rapport à la situation et ne sachant pas vraiment comment aider. Et du coup, voilà, j'ai voulu associer l'association des Rêves pour Xavier qu'ils ont créé il y a une dizaine d'années. Au projet, c'était ma manière à moi de trouver une solution pour les aider. Et puis du coup, en essayant de lever un petit peu de fonds pour aider l'association. En plus, avec le Covid, tu imagines que le milieu associatif était un petit peu la dernière roue du carrosse. Donc très compliqué de faire des choses et puis de financer une association, un fonctionnement d'asso. Donc voilà, ça s'est fait très naturellement. Et puis, j'ai pu créer ce concept de Cycling for Autism, au-delà d'aider l'asso, d'essayer de sensibiliser avant de partir, là, au travers de ton podcast, notamment, une fois le retour. Mais également, pendant que je suis parti, tous les gens que je pouvais rencontrer ou à qui je pouvais expliquer un petit peu le sens du projet, sensibiliser un maximum de personnes au travers de ce voyage.
Et j'ai aussi pu voir sur ton compte Instagram, du coup Cycling for Autism, que la cagnotte, tu as organisé une cagnotte et que l'argent a permis d'acheter un vélo adapté à Xavier, donc la boucle est bouclée du coup.
Ouais, tout à fait, c'était hyper sympa et voilà, finalement un projet de famille qui se réalise parce que effectivement l'association, donc il y a une plateforme qui s'appelle Hello Asso, qui aide les associations à gérer les adhésions, éventuellement faire des cagnottes participatives comme je l'ai fait. Et du coup, voilà, donc moi, j'ai créé une cagnotte spécifique pour le voyage. Le but caché était de récolter assez de fonds pour financer le vélo adapté à Xavier et son papa. Donc voilà, c'est un tandem parce que Xavier a toujours adoré faire du vélo. Maintenant, il est adulte, enfin presque adulte quand il a 15 ans, il fait presque ma taille et du coup, il peut plus faire du vélo tout seul parce qu'il est pas capable de se diriger ou de freiner par lui-même. Donc, il faut qu'on l'aide. Et le tandem était adapté à leurs besoins parce que du coup, Grégoire, mon frère, est derrière, peut diriger tout ça. Et puis, Xavier, à l'avant, est capable de pédaler, de se dépenser un petit peu, de voir du paysage. Et donc, on a réussi, au travers de la cagnotte, à financer le vélo, et même plus encore. Donc, c'est super parce que voilà, ça va les aider dans leur quotidien. D'avoir un enfant handicapé, ça a des frais. Donc, voilà, tout ce qu'on a pu récolter dans la cagnotte va les aider pour le vélo et puis dans les mois qui viennent, en tout cas.
Si on parle du voyage à vélo, et moi j'ai pu voir sur ton compte Instagram que tu as publié la carte de ton, enfin, la carte prévisionnelle de ton itinéraire assez tôt. Ouais. Et on parle de Tour d'Europe, mais il faut savoir que là pour le coup c'est quand même un vrai Tour d'Europe. Tu avais prévu, et tu vas nous dire après peut-être s'il y a eu des petites modifications, mais tu avais prévu de partir de Blois pour aller jusqu'en Turquie, à Istanbul, puis de remonter toute Europe de l'Est pour aller au Cap Nord. Et de redescendre du coup par la Scandinavie pour revenir à Blois. Donc c'est quand même un très très beau tour d'Europe.
C'est presque le tour de l'Europe. Hein, si on... ouais. Certains pointueux m'ont dit « Ah, mais t'es pas allé en Espagne ou au Portugal quand même ?» Non, oui, effectivement, le but c'était de partir. Ouais, c'était mon idée de départ, vraiment un tour d'Europe. Donc voilà, aller jusqu'au bout à Istanbul, remonter au Cap Nord et puis revenir à Blois. Mon frère et Xavier habitent à Blois, donc c'était l'idée de partir de là-bas et de revenir là-bas pour boucler la boucle.
Et comment tu as préparé l'itinéraire justement? Est-ce qu'il y avait des pays par lesquels tu avais absolument envie de passer?
Alors, j'ai déjà acheté une carte avec les Eurovélos. Je me suis dit, il faut que je parte quand même de quelque chose. Donc, tant qu'à faire, s'il y a des itinéraires cyclables sympas qui existent déjà, pourquoi pas essayer de les suivre un petit peu. Donc je les ai suivis à peu de choses près, plus ou moins loin à certains moments. mais en tout cas, voilà, ça m'a donné, moi, déjà une première, des premières billes pour tracer l'itinéraire. Et puis après, j'ai pris Komoot. J'ai pris Blois, je me suis dit, tiens, si je vais à Istanbul, ça fait combien? Si je vais au Cap Nord, ça fait combien? Et si je reviens à Blois, ça fait combien? Donc, j'avais tracé, voilà, un très estimatif, hein, c'était pour plus pour moi me donner une idée et puis surtout une idée du kilométrage, est-ce que c'est jouable? Parce que j'avais un temps quand même défini, et est-ce que c'est jouable en termes de dénivelé, je sais pas, enfin essayer quand même de regarder tout ça pour pas que je m'engage dans un truc qui est pas jouable, sachant qu'après on part à vélo avec tes sacoches, j'avais ma tente, j'avais tout ce qu'il fallait, donc l'itinéraire, si je l'avais pas du tout respecté, en vrai ça aurait rien changé, hein, mais ouais, j'avais quand même envie d'essayer de faire ce tour-là. C'était le but de départ.
Tu partais quand même d'un premier voyage à vélo sur la Vélodyssée qui est très très bien balisé
Ah bah c'est un des mieux balisés d'Europe, oui.
et très emprunté à un tour d'Europe qui est peut-être un petit peu moins bien balisé où tu auras peut-être un petit peu moins de repères. Donc c'est
Ah,
bien
tout
aussi de
à fait.
pouvoir te projeter.
Une Vélodyssée qui était très plate aussi.
Aussi, et là ça a dû te changer un petit peu.
Ouais. Pas mal.
Et donc tu nous disais que tu avais un temps limité. Comment tu t'étais organisé au niveau de ton travail et peut-être de ton logement? Est-ce que tu as tout quitté ou est-ce que tu as tout gardé?
J'avais quand même, comme je t'avais dit, j'ai prévu ce voyage depuis 1 an et demi dans ma tête, et du coup j'ai commencé à en parler dans mon travail. Donc j'ai réussi et ma boîte permet de faire ce qu'on appelle des congés sabbatiques, donc de 6 mois. J'y ai ajouté quelques reliquats de vacances pour que ça fasse 7 mois, un peu plus de 7 mois au total. donc voilà, je savais que j'avais ce temps-là. J'ai sous-loué mon appartement à Bordeaux. Je m'entends très bien avec mon propriétaire, donc j'ai réussi à le sous-louer pareil la durée du voyage. Donc tout s'est hyper bien goupillé là-dessus. Donc j'étais assez libre à ce niveau-là, mais du coup le sens de ta question est que j'avais une date de retour. Il fallait que début novembre je sois d'attaque pour reprendre le travail.
Et c'était un défi pour toi ou finalement c'était aussi une sécurité de savoir que tu revenais dans un environnement connu?
C'est une forme de sécurité. Maintenant, j'en ai pas besoin pour me lancer dans ce genre de défi. Mais dans tous les cas, voilà, je suis dans un travail que j'apprécie etc. Ils permettent de faire ce genre de congé sabbatique. Donc, c'est faire effectivement une sécurité de l'emploi. Je reviens, j'ai un temps défini, je reviens, je retrouve tout ça. Donc, c'est quand même très confortable. Voilà, donc pour ce projet-là, en tout cas, c'était une bonne manière de fonctionner.
On va parler un petit peu budget. Donc tout à l'heure, on a parlé de l'association des rêves pour Xavier. Je ne sais pas si on l'a mentionné, mais l'intégralité de la cagnotte a été reversée du coup à l'association. On voit parfois quelques voyageurs qui reversent une partie de la cagnotte et qui utilisent l'autre partie pour financer leur voyage. Comment toi tu as fait pour financer ton voyage? Est-ce que c'était uniquement tes économies ou est-ce que tu as fait appel à des partenaires, des sponsors et autres?
Alors, c'était uniquement mes économies. Donc, comme tu l'as dit, moi, je voulais vraiment que bah, toutes les donations reviennent à l'association. C'était hors de question de financer une partie de mon voyage avec. Alors, voilà, ça fait 15 ans que je travaille et j'ai la chance d'être dans un domaine où je gagne très bien ma vie. Donc, voilà, j'avais de quoi financer moi-même ce voyage. Alors, effectivement, d'un point de vue matériel, j'avais essayer de faire sponsoriser voilà l'achat des sacoches à droite à gauche quelques petites choses mais après comme je te l'ai dit c'était compliqué donc non j'ai vraiment financé par moi-même tout le voyage.
Et si on parle matériel, maintenant, il me semble que tu voyages avec Jean-Michel. Est-ce que tu peux nous le présenter?
Ouais, bah, mon Jean-Mich, hein, c'est mon filet d'estrier. Il fallait que je lui donne un petit nom à mon vélo. Donc, c'est un Genesis Croix de Fer tout rouge. Ceux qui iront sur mon compte Instagram le verront. Ouais, donc, je voulais un vélo solide pour m'accompagner. Ça faisait quelque temps que je faisais de l'œil au gravel et que j'avais envie de me lancer aussi dans la discipline entre guillemets, qui est un peu plus aventureuse que rouler en vélo de route sur de la route avec des voitures, des camions qui passent à côté. Bon, c'est bien de temps en temps, mais le gravel, je trouve que c'est aussi une forme d'aventure, même si je pars 3 heures autour de chez moi. Et donc du coup, j'ai acheté un vélo spécifiquement pour ce voyage, dans le but voilà de l'utiliser dans les prochaines années pour d'autres activités également. Donc voilà, en acier, quelque chose de solide qui puisse encaisser ce que j'allais lui faire vivre. Et non, enfin assez naturellement. Enfin, j'imagine que les gens qui vont écouter et qui sont voyage à vélo savent bien que le Croix de Fer et que Genesis c'est réputé pour ça. Donc voilà, assez vite, je me suis orienté vers ce vélo-là.
Et du coup, Jean-Mich n'a que des avantages, même pas d'inconvénients.
Non, Jean-Mich a que des avantages. En plus, il a des petits points d'accroche un peu partout pour mettre les porte-bagages, les sacoches. Non, franchement, puis on en reparlera après, mais ouais, il a été hyper solide, Jean-Mich. Hein, je le remercie encore dès que je le croise aujourd'hui. Là, je l'ai emmené faire une petite révision. Hein, c'est mon cadeau de Noël. Il est parti à l'atelier pour se refaire une petite beauté. Mais non, tout s'est très bien passé. Puis enfin, je conseille, s'il y en a d'autres qui se posent la question d'un vélo, c'est enfin en tout cas c'est un bon choix, ils seront pas déçus.
Et pour le reste du matériel, est-ce qu'il y a des objets dans lesquels tu as particulièrement investi? Peut-être un conseil sur une tente ou un sac de couchage ou un réchaud?
Ouais, alors bah réchaud, sac de couchage, fringues de bivouac, etc. Comme je fais beaucoup de rando, j'avais déjà tout en stock. Sac de couchage, moi j'ai en confort moins 2 ou moins 3. Donc c'était bien parce que bah, j'allais dans le Grand Nord, on en parlera tout à l'heure, mais il me fallait quelque chose quand même qui me permette de tenir des températures. Alors, même dans le Grand Nord, en été, il fait pas zéro, mais par moment, on va voir que j'en étais pas très très loin. Donc c'était bien. Et donc du coup, ouais, bah, j'ai investi dans des sacoches, bah, parce que forcément, il faut des trucs qui sont quand même imperméables. J'avais pas vraiment voyagé avec des grosses sacoches hein, quand j'étais parti sur la Vélodyssée. J'étais plutôt en mode bikepacking. Donc vélo de route avec des petites sacoches devant et derrière, des sacoches de selle et de cadre. Donc voilà, là j'avais besoin de vraies sacoches pour trimballer tout mon équipement pendant 6 mois. Puis toujours penser dans le réutilisable pour la suite. Toi, je me suis pas dit, tiens, il me faut quelque chose spécifiquement pour ce voyage-là. Dans un monde où il faut que tout soit un peu plus durable. J'avais même regardé, il y a des sites qui existent de revente d'objets de seconde main dans l'outdoor, dans voyage à vélo, j'imagine que ça existe aussi. Donc il ne faut pas hésiter là-dessus non plus. Ouais.
Et si on se projette quelques jours avant le départ, dans quel état d'esprit tu étais? Est-ce que tu avais des peurs ou des appréhensions?
Bah, excité, forcément, hein, hyper impatient de partir. Ma seule petite crainte, c'était niveau physique. J'ai eu une infiltration au genou 4-5 mois avant de partir parce que un GR20 s'est fini l'été dernier avec un genou un peu en vrac, toujours le même. Dessus, j'ai fait la Vélodyssée, j'ai fait pas mal de rando et de vélo l'été dernier. Et quand je me suis dit, tiens, je pars dans 6 mois, il faut quand même que je check. 3 jours après avoir grimpé le Tourmalet, je suis allé faire une IRM quand même. Et j'avais un tendon qui était presque rompu. Voilà, donc ça passe par 3-4 semaines où tu peux pas faire grand-chose, tu peux à peine marcher. Et puis, ben, rééducation, où tu réapprends à faire du vélo dans le vide, à courir sur place pendant 5 minutes. Voilà, tu pars d'assez loin. Le muscle qui a complètement fondu, du coup. Donc voilà, heureusement, j'avais un médecin du sport et un kiné magnifique, donc auquel j'ai communiqué le fait que voilà, je voulais partir faire ce voyage à vélo. Ils n'étaient pas inquiets, ils m'ont fait un petit programme aux petits soins. Donc non, franchement, ça s'est hyper bien passé. Donc c'était un peu ma seule crainte. Mais non, après, ouais, hyper excité, envie de partir. Là, ça faisait quelques mois que j'étais en train de préparer ça, donc hâte de démarrer.
Je comprends. Donc, tu t'es lancé de Blois le 2 avril 2022 pour réaliser ton tour d'Europe à vélo de plus de 6 mois et plus de 13 000 km. Et pendant ce voyage, tu as notamment traversé 25 pays. Et dans certains, tu es aussi parti à la rencontre d'associations et d'actions qui sont impliquées dans l'accueil des personnes autistes. Ben justement, on a fait l'avant-départ, on va peut-être faire le départ. Comment se sont passés tes premiers jours de voyage à vélo?
Ouais, bah déjà le jour du départ, donc c'est assez symbolique, hein. Je partais de Blois, voilà, avec la famille. J'avais quelques amis proches qui étaient là aussi. Donc c'était une manière de se réunir autour de ce projet. Donc voilà, j'ai fait les quelques premiers kilomètres avec Xavier, avec mon frère, avec mes parents, accompagné de quelques cyclistes. Donc c'était symbolique aussi de partir le 2 avril, qui est la journée internationale de l'autisme. Donc voilà, tous en bleu, qui est la couleur également associée souvent à l'autisme. Donc voilà, hyper content de partir. Et alors le départ s'est passé progressivement parce que finalement les 2 premières semaines, j'ai jamais été tout seul. C'était cool, j'ai eu mes parents qui m'ont accompagné les 6 premiers jours avec le camping-car. Donc voilà, ils roulaient à tour de rôle avec moi. Moi du coup, j'ai pu partir sans les sacoches chargées. Donc pour mon genou, c'était quand même assez confort parce que j'ai pu prendre le rythme, mes 80 km par jour, sans poids au départ, donc pour que voilà, le muscle et le genou se fassent tranquillement. Et donc voilà, après je dormais dans le camping-car, donc pas de bivouac. En plus, il faisait très mauvais, très froid cette première semaine, du vent dans la tronche. Donc ouais, j'étais direct dans le bain. Et après, passé en Italie, enfin voilà, pareil, autour du lac Léman, j'ai retrouvé des copains proches avec qui j'ai pu rouler aussi là-bas. J'ai un autre copain qui m'a retrouvé quelques jours en Italie. Donc quoi, ouais, la transition, même les premiers jours avec sacoche, j'étais accompagné, donc je pouvais un petit peu me cacher quand il y avait du vent contre. Donc voilà, non, ça a été un démarrage idéal. Et puis après, j'ai eu beaucoup de beau temps en plus l'été avant l'heure. La pré-saison hyper sympa sur la côte adriatique, donc c'était cool.
Tu nous disais que tu avais un temps limité. Est-ce que tu t'étais du coup fixé à un nombre de kilomètres par jour à atteindre ou est-ce que tu avais tracé tes étapes sur quelques jours et quelques jours à suivre? Comment tu t'es organisé pour ça? Ou t'as tout fait au feeling en fait?
Komoot te permet d'avoir et de découper en fait une trace en plusieurs jours. Donc j'avais une petite estimation où je l'avais moi, j'avais pris ma trace de 15 000 km de départ et je l'avais coupée en jours. Donc je m'étais dit, bon, ça fait à peu près, je sais pas, 160, 170 jours de vélo. Si je fais vraiment l'itinéraire de départ, et je savais très bien que je le suivrais pas à la lettre, mais en tout cas, ça me donnait une indication. À peu près, voilà, 80, 90 km par jour, c'était ce que je me fixais. Voilà, moi je suis assez sportif, donc ça me correspondait bien. J'avance plutôt à un bon rythme aussi la journée de vélo, même avec les sacoches. Donc ça me laisse le temps de prendre mon temps, de faire des pauses, de regarder, de faire des pauses de temps en temps. Je m'étais dit, voilà, si je fais une trentaine de jours de pause, je suis largement dans les clous. J'avais 2 points de passage, c'était vers la Grèce ou la Turquie et au Cap Nord. Donc je m'étais dit, bon, si je suis au Cap Nord vers la fin juillet, début août, ça match avec les saisons et puis ça, ce sera pas trop mal par rapport à mon idée d'itinéraire. Après, je savais que si j'étais en galère ou si je prenais plus de temps pour aller voir un truc qui m'intéressait ou autre, je pouvais tout à fait prendre un bus, un train. Alors là, je me donnais pas d'interdiction, je m'en foutais un petit peu. Ouais.
Je comprends. Donc tu es parti de France, comme tu nous disais, tu as été en Italie, après tu as longé la côte Adriatique jusqu'à la Grèce, si je ne me trompe pas. Est-ce qu'à un moment tu t'es dit, waouh, là je suis vraiment dépaysé ou je suis surpris par le pays que je traverse?
Ouais, bah sur la côte croate, bah ceux qui connaissent, ils sont déjà allés. Enfin, c'est vraiment magnifique. Donc autant, bah quand t'es en France, quand t'es en Italie, ça fait une semaine, 2 semaines, t'as un peu l'impression de partir en vacances en fait. Enfin moi, dans ma tête, j'étais pas encore trop en mood. Puis j'étais accompagné. Donc ouais, j'étais pas encore en mood. Je réalisais pas en fait. Je pense dans ma tête, je pars 6 mois faire du vélo. Et quand je suis arrivé en Croatie. Puis là, que tu fais la côte croate, les pays des Balkans. Enfin, ouais, là, il y a des, tu prends des premières claques. Puis là, tu te dis, ouais, c'est, ça y est, c'est parti. Tu es dépaysé. Tu profites de la liberté comme rarement. Et puis, tu te dis, tu as 5 mois ou 6 mois devant toi. Donc, c'est une chance incroyable. Tu mets un peu le cerveau en pause et puis tu essaies de profiter, quoi.
Ouais, tu profites des paysages, des rencontres aussi peut-être et
Ouais. Tout à fait, ouais, les premières rencontres où là j'ai roulé pendant 10-15 jours avec un Suisse rencontré dans un restaurant à l'arrache. Voilà, les premiers hébergements chez l'habitant, warm shower, etc. Donc ouais, là tu, c'est là où j'ai vraiment commencé mon voyage.
Et donc tu as fini par arriver en Grèce, du coup au bout de 3 000 km. Tu nous disais que c'était un peu un de tes checkpoints, la Grèce?
Ouais, effectivement. Alors au départ, je voulais aller au bout de l'Europe, donc jusqu'à Istanbul, au Bosphore, en me disant bah voilà, c'est vraiment là la porte de sortie de l'Europe. Et après, j'ai un peu revu mes plans parce que voilà, j'ai croisé pas mal de cyclos qui me disaient ouais l'arrivée, le parce qu'il fallait que j'aille jusqu'à Istanbul et puis qu'après que je revienne sur mes pas pour remonter vers la Bulgarie. Donc ça faisait rentrer et sortir de la ville sur des routes qui sont pas forcément très sécures. Où là, tu passes une semaine un peu dans les, ouais, sur des routes pas hyper sympas. Donc, je me suis arrêté avant. Donc, j'ai dit Thessalonique, ce sera un peu le point de bascule. Et donc, je m'étais un peu fixé ça comme premier point de, voilà, premier point d'objectif.
Et qu'est-ce que tu as ressenti une fois que tu es arrivé à Thessalonique? Est-ce que tu étais déjà fier de toi? Est-ce qu'au contraire, tu en avais un petit peu assez et tu voulais changer des choses? Ou je sais pas dans quel état d'esprit tu étais?
Non, hyper fier, ouais, parce que ben c'est un peu un premier point de passage en me disant bon ben voilà, je suis au point le plus au sud, ça fait je sais pas 40, je crois 45 jours que je suis parti, voilà 3 000 km, ouais, j'avais l'impression déjà d'avoir traversé l'Europe un petit peu, donc non, j'étais hyper content. Alors j'avais pas énormément fait de bivouac sauvage encore à ce moment-là, parce qu'en fait sur la côte, bon, c'est assez confort, en plus on était deux. Tu trouves des appartements à 15 € la nuit, t'es en avant-saison, hein, donc t'as un lit, t'as une douche, tu peux cuisiner pour 15 € la nuit à deux, enfin on s'est pas privé. Là, c'était le début du voyage, j'étais quand même encore assez confort. Bon, j'avais fait pas mal de nuits en tente, hein, notamment dans quelques campings le long de la côte. Donc là, je m'étais dit, bon, je vais essayer de faire un peu plus de bivouac sauvage, d'être plus aventure, entre guillemets. Et ouais, la suite, je vais pas être déçu par la suite.
Ah, oh, tu nous fais spoiler.
Il faut faire monter la pression un petit peu.
Du coup, tu vas nous le dire après, mais c'est vrai que les pays que tu as traversés par la suite, et notamment les Pays-Bas et la Scandinavie, se prêtent beaucoup plus au bivouac, enfin, sont beaucoup plus faciles pour bivouaquer en tout cas,
Ouais.
que la côte adriatique.
Ouais, en fait, il y a qu'une route qui longe la côte en plus, donc ouais, les bivouacs sauvages, c'est pas ouais, les spots, c'est pas ce qui court les rues, donc ouais, il y avait une certaine forme de confort aussi à... Puis je savais que en allant dans les pays du Nord par la suite, ce serait beaucoup plus sauvage et beaucoup plus propice, et puis de toute façon que j'aurais pas le choix clairement. Donc voilà, je savais que c'était une première étape du voyage. Qui était en plus il faisait beau, il faisait chaud. Alors là, pour le coup, c'était tout confort. C'était du voyage à vélo 4 étoiles.
M'étonnes. Et est-ce que sur cette première partie, tu avais été rencontrer des associations et des acteurs qui œuvrent autour de l'autisme?
Ouais, alors j'ai rencontré une asso à Gex, donc à la sortie de la France. Voilà, on s'est rencontré un matin. Pris un café, échangé un petit peu. Ils avaient fait un article dans le journal local pour parler un petit peu du voyage. Et après, à Thessalonique, donc j'avais pris contact avec une association qui loge, eux, des jeunes adultes autistes et qui les accompagne vers l'autonomie. Donc je trouvais ça hyper intéressant parce que une personne autiste, quand elle arrive à l'âge adulte, bah, elle reste autiste et puis il faut l'accompagner. Et puis les familles d'aidants peuvent pas forcément s'en occuper toute leur vie non plus. Donc qu'est-ce qu'il y a comme solution pour ces gens-là? Comment on peut les accompagner? Quelles solutions il existe? Et du coup, là, ils ont créé quelques centres. Donc ils en avaient 3 ou 4 à l'époque où je suis passé. Donc voilà, il crée des centres avec des volontaires, avec des aides de l'Union européenne. Donc c'est ça aussi qui est intéressant. C'est que ben, dans d'autres pays européens, comme en France, c'est très très compliqué la prise en charge d'enfants et même d'adultes autistes. Hein. Il y en a beaucoup qui sont malheureusement hors système, hors cadre français ou des pays, d'autres pays. Et du coup, qui n'ont pas du tout de prise en charge. Malheureusement, bah, moi, le cas de Xavier, qui est autiste sévère, donc bah, voilà, pour qu'il soit pris en charge, accompagné, ça a toujours été très compliqué, il n'y avait pas forcément de solution, donc la famille se retrouve à devoir s'en occuper, à essayer de mettre en place de l'accompagnement ou d'essayer de l'aider, mais ils ne sont pas formés, donc bah, c'est compliqué, et puis c'est une charge. Donc voilà, c'était aussi le but du voyage, essayer peut-être de voir ce qu'ils faisaient dans d'autres pays. Et donc là, ils ont réussi à aller chercher des aides européennes pour créer des centres. Et après, voilà, il y a forcément une forme de sélection parce qu'ils ne peuvent pas accueillir tout type de personnes autistes. Il faut que les personnes qu'ils accompagnent soient compatibles les unes avec les autres. Donc il y a des périodes de tests. Voilà, donc ils y vont vraiment petit à petit et puis ils sélectionnent. Les gens qui prennent et qui accompagnent, quoi.
Oui, ça te permet aussi bah, d'ouvrir un peu entre guillemets tes horizons et de voir d'autres formes d'accompagnement de l'autisme, comme tu nous dis, par rapport à ce qui existe en France.
Ouais, tout à fait. Puis bon, j'ai rencontré notre association en Roumanie, voilà, qui eux existent depuis 15 ans, qui s'appelle Help Autism en Roumanie. Et qui eux vont beaucoup plus loin. Ils ont de la prise en charge aussi pour les familles, où ils ont des séances de psy gratuites pour les familles toutes les semaines. Et puis comme ça, en confrontant et en regardant ce qui se passe dans deux ou trois assos, ben je leur ai parlé d'autres assos que j'avais vus, et donc ils ont pris contact les uns avec les autres parce que bah ouais, ils se sont rendus compte que eux, ils avaient réussi à avoir des aides de l'Union européenne. Alors comment ils ont fait, ça m'intéresse, etc. Donc bon. À mon échelle, j'ai aussi bah, réussi à les mettre en contact et du coup à les aider d'une manière ou d'une autre, donc c'était cool.
Et t'as fait du lien entre les associations
Ouais.
au cours de ta boucle à vélo, c'est super du coup. Ça va encore au-delà du projet de la cagnotte des rêves pour
Ouais,
Xavier.
exactement.
Donc là, on était en Grèce, tu nous as un petit peu parlé de la Roumanie. Tu nous disais il y a quelques instants que tu avais acheté une carte pour voir à peu près tous tes Eurovélos qu'il y avait en
Ouais.
Europe. Quand tu es reparti de la Grèce, est-ce que tu as emprunté une Eurovélo? Est-ce que tu as voulu en suivre une?
Pour ainsi dire, j'avais même pas beaucoup suivi depuis la France. Hein. Alors de près, de plus près ou de plus loin selon les moments, parce qu'il y en a une qui suit un petit peu la côte, mais elle s'éloigne de la côte à certains endroits. Donc là, moi, j'étais plutôt resté sur la côte. Et alors, par contre, en remontant de Thessalonique par la Bulgarie, la Roumanie, même jusqu'aux Pays-Baltes, il n'y a pas vraiment d'Eurovélo qui passe par là-bas. Alors il y en a une qui longe le Danube, qui vient de Hongrie, Serbie, qui passe par la Roumanie, mais finalement je l'ai pas suivi. Moi j'ai voulu traverser les Carpates, voilà, faire un petit peu de montagne, donc je l'ai pas forcément suivi jusqu'à arriver en fait dans les Pays-Baltes où là j'ai plus repris un petit peu un itinéraire de revue.
Et est-ce que sur cette partie en Europe de l'Est, il y a, je sais pas, un paysage ou un moment qui t'a particulièrement marqué?
Ouais, bah, j'ai fait une rencontre un petit peu spéciale, bah, justement, là, en passant les Carpates sur une route qui s'appelle la Transfăgărașan, qui est souvent citée une des plus belles routes cyclables du monde, bon, qui était fermée début juin au moment où moi je voulais passer, mais avec un autre cyclo breton, Kelig, que je salue s'il écoute le podcast d'ailleurs, on a eu un coup de chance parce que on avait dormi dans un camping en bas de la route. La veille, et le propriétaire connaissait les mecs qui bossaient sur le déneigement du sommet, parce que voilà, début juin, il y a encore de la neige au sommet, et il y a un tunnel en plus qui passe en haut de la route, et il nous a dit en fait que le tunnel est tout le temps ouvert, donc il y a une porte, mais la porte est jamais fermée à clé.
Ok.
Donc il nous a dit, les gars, vous pouvez y aller, il reste de la neige sur les 300-400 derniers mètres, mais ça passe. Donc moi je suis reparti le lendemain matin en me disant bon, normalement ça passe. Kelly lui partait beaucoup plus vite, beaucoup plus ra rapidement. Donc il m'a dit bon, moi normalement je passe aujourd'hui, je te tiens au courant. Et en fait, au bout de 30 km de montée, parce qu'il y a quand même 80 bornes de montée pour arriver au sommet, alors ça monte plus ou moins raide à certains endroits, mais voilà, au bout de 30 km, je suis tombé nanée avec une maman ours et ses trois petits. Donc, il y avait beau avoir des panneaux un petit peu partout le long de la route, attention aux ours, etc. On s'imagine pas qu'on va tomber dessus sur la route. Donc, ouais, à 30, 50 mètres de moi, donc ça fait un petit peu bizarre, mais bon. De fil en aiguille, j'ai réussi à passer en prenant un petit peu mon temps, en essayant de faire du stop, en reculant un petit peu, en me disant, bon, ils vont finir par partir. Ouais, ils ont fini par partir, mais ça a duré un petit moment. Et quand j'ai réussi à passer, je les ai quand même croisés dans la forêt, croisés le regard de la maman ours qui était pas très très loin. Et voilà, donc c'était quand même assez intense. Et heureusement, le sommet était praticable entre guillemets, dans le sens où on a réussi à passer, Kelly et moi. Ils étaient en train de déblayer la neige avec des grosses machines au sommet. Donc, du coup, la route était fermée. Et donc là, pour répondre à ta question, je me suis un petit peu perdu dans mon explication, mais pour répondre à ta question, la Transfagarasan fermée, donc du coup, tout seul à vélo, quand il fait beau, c'était juste ouf, ouais. Ouais, je garderai un souvenir de ce passage assez mémorable, en plus avec la petite rencontre qui va bien. Et puis voilà, ouais, arrivé au sommet, bon, les mecs étaient en train de déblayer la neige, ils te voient arriver, ils font « Mais mec, qu'est-ce que tu fais là ?» Il y avait trois barrières, passer les trois barrières, arriver au sommet, fait, mais qu'est-ce que tu fais là, mec? repars dans le sens, enfin, t'as rien à faire là, donc repars. Et en fait, il y avait un Français qui s'appelle Julien qui gardait le refuge de manière bénévole. Il est là de temps en temps, les week-ends, certaines semaines. Et il a amené du café au mec qui travaillait pour déblayer la neige sur les. Ouais, il y avait 400. Encore 400 mètres avec un peu de neige. Et du coup, il me voit arriver avec mon vélo et puis avec un grand sourire. Et il me dit en anglais, « Ah bah tiens, je vais t'aider à passer. » Parce qu'il y avait un gros névé à passer en marchant, en fait, pour arriver au tunnel, à la fameuse porte du tunnel. Et du coup, il m'a aidé à porter mon vélo sur les 50 ou 100 mètres de neige pour arriver jusqu'au tunnel. Et puis, avec son bon vieil accent français, il fait « Mais t'es français, toi ?» Puis sur le temps, il fait « Ah mais oui, mais toi aussi !» Du coup, ouais, c'était assez marrant. Du coup, on a parlé un petit peu et puis il m'ouvre la porte. Il me fait « Effectivement, la porte est ouverte. Vas-y, mec. Fais attention. Par contre, la route est gelée dans le tunnel. Donc, il y a des stalagmites et des passages un peu glissants.
» Et il devait être sympa, ce tunnel.
Il fait 2 km, tout noir. Donc là, bah, tu sors les lumières qui vont bien et... Et ça fait bizarre de se retrouver dans du noir, mais vraiment très, très noir. Et effectivement, quand tu regardes un peu avec la frontale et avec la lumière de vélo, bah, y a de la glace par terre et il y a 2-3 stalagmites qui traînent. Donc, heureusement, il y a un tout petit trottoir qui est un petit peu sablonneux qui permet d'éviter ça. Et puis, de l'autre côté, quand tu rouvres la porte de l'autre côté, bah, t'as 500 mètres de neige encore à passer, à pousser ton vélo. Mais c'est pareil, après, t'es tout seul sur la route qui zigzague au milieu de la montagne. Enfin, la vue est assez incroyable.
Écoute, on parle peu de cette route, mais ça donne envie d'aller y pédaler, en tout cas.
Ouais, ça vaut le coup. Ça vaut le coup. C'est une des routes les plus belles du coin, ouais.
Donc après, tu as poursuivi ta remontée vers le Cap Nord, vu que c'était ton deuxième checkpoint.
Ouais.
Donc tu es passé après de la Pologne vers les Pays-Baltes et la Scandinavie. De la Pologne aux Pays-Baltes, c'est comme un autre monde. C'est les Pays-Baltes, pour moi, c'est un peu le pays du bivouac et de la nature. Je ne sais pas ce que tu en penses.
Ouais, et j'ai même coupé une partie de la Pologne en train. Et après, voilà, porte d'entrée dans la Lituanie. Effectivement, là, tu changes de paysage, tout de suite beaucoup plus sauvage. Et puis après, ouais, les Pays-Baltes, c'est incroyable pour le bivouac. Tu mets ta tente un peu partout. De toute façon, tu n'as personne. Hein. C'est des pays qui sont très peu peuplés. Tu as des grands champs un peu partout. Donc, c'est magnifique en termes de paysage pour rouler en voyage à vélo. C'est hyper adapté. Tu as des très, très belles portions gravel, des pistes qui ne sont pas compliquées et qui sont magnifiques. Quoi.
Et tu as aussi des aires de bivouac aménagées qui sont... je ne sais pas si tu en as testé quelques-unes, mais qui sont bah, du coup un peu faites pour le cyclotourisme ou les randonneurs de passage. Mais...
notamment en Estonie, le pays le plus au nord des trois pays des pays baltes. Oui, effectivement, il y a une application qui répertorie un peu des shelters ou des endroits de bivouac aménagés. Et c'était le premier pays sur ma route qui proposait ce genre de choses. Et puis après, avec la Finlande, avec le Danemark, là, on est encore dans un autre level, mais c'était assez agréable.
Tu as traversé la mer Baltique, du coup, pour arriver jusqu'en Finlande. Et donc, en Finlande, tu es remonté jusqu'au Cap Nord. Est-ce que tu peux nous décrire un petit peu cette portion d'itinéraire en Finlande ? À quoi ça ressemble, la Finlande ?
Alors, la Finlande, il y a deux parties distinctes. Il y a déjà la région des lacs au sud de la Finlande. Tu traverses des lacs et des lacs. Tu ne sais plus quel est quel lac. En fait, tu finis par t'y perdre parce que tu as de l'eau, des bouts de terre qui passent au milieu des lacs. Tu ne sais plus vraiment où tu es à certains moments. Donc, c'est assez sympa. En plus, là, j'avais rencontré un autre cyclo français qui s'appelle Franck. Et on s'est suivi là pas mal de semaines sur toute cette portion-là jusqu'à un petit peu après le Cap Nord. Donc, on a vraiment pu profiter de la région des lacs. C'était hyper agréable. Il faisait encore beau. Pas mal de moustiques l'été. Donc nous, on a eu de la chance avec Franck parce qu'on est arrivé un petit peu sur la fin de la saison des moustiques. On était mi-juillet, donc ça allait encore. On s'attendait à pire. Enfin, moi, je suis un psychopathe là-dessus. Il tapait des barres parce que moi, j'arrêtais pas de parler des moustiques. J'ai un sang qui doit les attirer parce que dès qu'il y a un moustique dans la pièce, il se délecte de mon sang. Donc, ça me faisait un petit peu flipper. Il y en avait clairement, il y en avait un petit peu partout, mais je m'attendais à bien pire. Donc, au final, tu prends un anti-moustique qui te vendent des trucs assez solides par là-bas. Et puis en fait, tu t'habitues à avoir quelques moustiques qui tournent autour. Au final, t'as quelques piqûres, mais ça va. Et la deuxième partie de la Finlande, ça switch à peu près au moment où tu passes le cercle polaire. Donc, c'est au niveau de Rovaniemi. Et puis là, en fait, tu rentres il n'y a plus qu'une route. Et en fait, tu rentres dans des lignes droites, tu traverses des forêts à perte de vue, très monotone. Donc là, pendant 6-7 jours, en fait, on avançait avec Franck 100-120 km par jour, par moment, parce qu'il ne se passait rien, en fait. Donc, on avait juste envie d'arriver dans les fjords. Tu rencontres quelques rennes. Donc, c'est marrant, les premières fois. C'est marrant, il y a des rennes au milieu de la route, des troupeaux. Mais vraiment des troupeaux, des dizaines de rennes qui te barrent la route. Mais bon, assez long. Donc, on essayait d'avancer pas mal à ce moment-là. Et par contre, là, tu passes la frontière et au bout d'un ou deux jours, apparaît la frontière. Là, tu arrives dans les fjords et assez rapidement au Cap Nord. Donc là, tu sens qu'il y a un changement qui se fait et puis tu as l'objectif qui arrive assez vite.
Alors, juste avant d'arriver au Cap Nord, j'ai une question pratique. Pour les ravito, est-ce que c'est compliqué en Finlande ? Est-ce que tu prévois plusieurs jours d'affilée ou au contraire, vu que tu fais pas mal de kilomètres, tu arrives à te ravitailler tous les jours ?
Pas besoin forcément dans ces coins-là parce que, comme tu dis, on faisait à peu près 100 km par jour, donc on trouvait toujours une ville. Alors, t'en croises pas 36 pendant la journée, mais on se débrouillait pour avoir au moins une ville tous les jours, donc on n'avait pas besoin forcément de faire de grosses réserves. Donc, effectivement, à partir de ce moment-là, il fallait quand même beaucoup plus prévoir ce genre de choses, les ravitaux en nourriture, en eau. Anticiper un petit peu plus mais à ce moment-là j'ai pas vraiment eu besoin de faire des réserves de plusieurs jours.
Donc tu nous disais que tu avais passé la frontière entre la Finlande et la Norvège pour arriver au Cap Nord. Elle est comment la route pour arriver au Cap Nord ? Est-ce que c'est compliqué ou est-ce que t'as fait plus dur avant ?
Ceux qui y sont allés savent que les 30-40 derniers kilomètres sont c'est assez compliqué. Alors, une fois que tu arrives, en fait, tu n'as qu'une route. C'est pareil pour aller au Cap Nord, tu n'as qu'une route. Donc, qui longe les fjords. Donc là, déjà, tu as les premiers fjords. Enfin, moi, j'étais comme un enfant de 5 ans. J'arrive pour les fjords. C'était un petit peu ce que je recherchais depuis le début du voyage. J'attendais la Norvège et puis les fjords avec grande impatience parce que je suis un amoureux de la nature et des grands espaces. Et pour moi... Ça matérialise complètement ça. Donc, j'avais vraiment hâte d'arriver là. Et du coup, tu as que 2-3 jours entre le passage de la frontière et l'arrivée au Cap Nord. Donc, ça se fait assez vite. Et ce qui est particulier, c'est que le Cap Nord, en fait, c'est sur une île. Donc, pour arriver sur l'île, tu as un tunnel qui fait 7 km et qui a la particularité de descendre à 200 mètres en dessous du niveau de la mer. Donc, en fait, tu commences le tunnel par 3 km de descente. Tu as l'impression d'être dans la descente du Tourmalet pendant 3 bandes, c'est tout droit. Et tu descends dans les limbes, dans la terre, tu es dans la terre du milieu, quoi. C'est noir. T'es tout seul, il fait un peu froid dans les tunnels là-bas, et tu descends à 200 mètres en dessous du niveau de la mer, donc c'est un peu particulier. En plus, c'est assez assourdissant parce qu'entre les bruits de ventilation, de camping-car, de voitures qui passent, ça peut vite donner un petit peu le tournis. Et puis cette impression d'être au fin fond de la terre, et tu as 1 km de plat, et puis après, faut remonter. Et donc, en 3 bornes, il faut faire les 200 mètres de dénivelé. Donc, ça monte à 9-10%. Donc, ça, c'est le premier challenge. Et puis là, tu arrives sur l'île où il y a le Cap Nord. Tu as encore 40 km à faire. Tu passes à la dernière ville qui s'appelle Hønixvåg. Et après, les 30 derniers kilomètres, ouais, tu as deux grosses côtes de 5 km à 9-10%. Donc, ça te fait une bonne journée. Mais après, bon, tu as l'excitation et puis tu as l'adrénaline. Donc, en fait, ça passe. Alors moi, j'ai cassé un câble de dérailleur 30 km avant le Cap Nord. Donc c'était ma petite anecdote. Et donc j'avais un câble de rechange, donc tout fier de moi. Bon, je suis pas hyper bricolo et pas hyper mécano dans l'âme, mais j'ai réussi à changer le câble en 10 minutes. Maintenant, j'avais une petite pièce dans mon système de frein et enfin dans ma cocotte. Qui a cassé, et du coup, en fait, même en passant les vitesses, ça marchait plus. En fait, la pièce servait à tirer le câble qui déclenchait le dérailleur et donc le changement de vitesse. Les moyens modernes font que tu ouvres Google Maps, tu tapes magasin de vélo, je l'ai fait pas mal de fois, et je me rends compte à ce moment-là qu'il y a un magasin, un Intersport à Hønixvåg, donc à 5 km de moi. C'est la seule ville à 200 km à la ronde et il y a un Intersport. Et là, je fais, OK, dans mon malheur, en fait, peut-être que j'ai de la chance. Donc, je reste sur. Bon, j'étais bloqué sur la plus grande vitesse. Hein, quand ton système est bloqué, est cassé comme ça, en fait, la chaîne, elle se met sur le petit pignon, donc la plus grosse vitesse. Et donc, heureusement, il n'y avait pas de côte ou autre parce que j'étais sur un gros développement. Et donc, je vais jusqu'au Intersport. En me disant, bon, est-ce que je vais être bloqué? Est-ce que je vais pouvoir repartir? Qu'est-ce qui va se passer? Et le mec avait un petit atelier vélo, mais vraiment tout petit. Il avait quelques trucs pour des VTT principalement. Le croix de fer, c'est un gravel. Hein, donc, moi, mon système, c'est un système Tiagra. Tu trouves pas ça très fréquemment. Et du coup, il avait forcément pas la bonne pièce de rechange, mais MacGyver dans l'âme. Et le mec, il m'a mis un système de changement de vitesse de VTT, en fait. Il m'a mis un système annexe qui n'était pas du tout adapté pour mon vélo. Mais en tout cas, il a coupé un cintre avec une disqueuse. Il a scotché le cintre. Hein, je l'ai aidé. On a fait ça tous les deux. On a scotché le cintre sur mon cintre à moi, sur lequel on avait mis le système de VTT à 8 vitesses.
Ok.
Et du coup, on a mis ce câble-là. On l'a plugué sur mon dérailleur. Et par chance, ça a marché. Donc, j'avais plus que 8 vitesses. Il me manquait les deux plus petites pour monter les deux côtes. Ça a donné un plus gros défi. Mais en tout cas, ça marchait. Donc, il m'a un petit peu sauvé la mise et j'ai réussi à aller jusqu'au Cap Nord ce jour-là. Donc, j'ai pu finir l'étape et retrouver Franck et deux, trois autres cyclos qu'on avait rencontrés sur les derniers kilomètres. Donc, ouais, non. Et puis, arrivé au Cap Nord. Ouais, du coup, t'as l'adrénaline, t'as les 7 500 km que j'ai déjà fait. Ouais, t'as les larmes qui arrivent forcément. Hein, donc, ouais, j'étais assez ému. Puis je repense à l'assaut, à tout ce qu'on a déjà réussi à lever. Ouais, tout le chemin que j'ai réussi à parcourir. Donc, ouais, assez émouvant.
Ouais, quand tu dois voir le globe de métal, quand tu arrives là-bas, ça doit être assez impressionnant.
Quand tu aperçois le fameux globe, c'est assez intense. Ouais. Forcément, j'ai les larmes qui me sont arrivées. Alors, je ne m'y attendais pas. Forcément, je ne suis pas quelqu'un de très émotif, mais ouais, ça se fait comme ça. C'est assez intense.
Et donc après, tu as descendu du coup toute la Norvège. forcément du nord au sud.
Ouais.
Dans Cyclotopo, on parlait de la Norvège justement en septembre. Tu devais peut-être pas être trop loin du Cap Nord, où tu vas peut-être même passer. On en parlait avec Antoine et Flo qui nous disaient que pour eux, leur objectif en Norvège avait été d'aller au Trolltunga. Qu'est-ce que tu as aimé, toi, en Norvège? Je sais que c'est un pays que tu attendais particulièrement.
Ouais, beaucoup d'attentes. Alors, tout le nord, j'ai eu, du coup, beaucoup de pluie. Ah, j'ai pris des seaux d'eau dans la tronche. Donc, ça m'a un petit... Alors, je vais pas dire gâché, parce que c'est une expérience en soi. Enfin, ça fait partie du voyage à vélo. On vit dehors, on accepte les conditions climatiques. Quand tu fais 2-3 semaines... où tu as 80% du temps pluie toute la journée et vent dans le nez, ça commence à taper un petit peu sur le système au bout d'un moment. Les freins qui ne sèchent pas, tout ça. La tente qui est tout le temps mouillée aussi. Donc, en fait, tout le nord, je n'ai pas profité autant que je l'espérais, même si j'ai eu 5 jours magnifiques au moment de l'île de Senja, donc qui est juste au-dessus des Lofoten. Et que j'invite tout le monde à aller voir, c'est encore plus sauvage. Et par contre, après, ouais, les Lofoten, un petit peu moins. Alors, ce qui est hyper cool, c'est que mes parents sont venus me retrouver à ce moment-là. On a passé 4 semaines ensemble sur la Norvège. Donc, on a pu partager ça en famille. Encore une fois, avec le camping-car. Donc, ils alternaient à vélo avec moi. Donc, c'était vraiment génial de pouvoir partager ça en famille. Et puis, surtout, de rouler ensemble, de découvrir un petit peu tous ces paysages-là. On a fait un petit détour par la Suède, du coup, au bout d'un moment, parce que vraiment, le long de la côte norvégienne, c'était très, très compliqué. Il y avait des alertes météo, en fait, hein, sur toutes les applis météo. Tous les 3-4 jours, il y avait des alertes qui arrivaient, pluie, vent, chute de pierre, tout ça. Donc, au bout d'un moment, moi, je regardais. Et puis, de l'autre côté de la chaîne de montagne, côté suédois, c'était un petit peu moins hostile. Donc, on a fait un petit détour d'une semaine et on a rajouté 300-400 km à l'itinéraire pour profiter un petit peu plus. On a eu un peu plus de soleil et moins de pluie, donc c'était cool. Et alors après, ce qui était incroyable, c'est que toute la partie sud, à partir de Trondheim jusqu'à Bergen, le Trolltunga, tous ces endroits-là, le fjord de Geiranger, il y a la route de l'Atlantique qui est à vélo, est juste incroyable. Et donc, en fait, là, j'ai pris beaucoup plus de temps que ce que j'imaginais et on a fait des tours et des tours dans toute cette partie sud de la Norvège qui est magique. La météo était enfin un petit peu plus clémente.
Tu nous vends bien, ça donne envie d'aller en Norvège aussi, du coup.
Pour les amoureux de la nature et puis là, tu n'as quasiment pas de ville, en fait. Tu vis au milieu de la nature.
Bon, et alors à un moment, il a bien fallu quitter la Scandinavie pour rentrer à la maison.
Ouais.
Donc après, tu es passé alors notamment par le Danemark, l'Allemagne, la Belgique aussi, donc peut-être des paysages un peu plus communs et connus par rapport à ce qu'on a en France. Comment tu l'as appréhendé, toi, ce retour à Blois?
Il a été en plusieurs étapes. Alors déjà, le Danemark... De la même manière que la Norvège, en fait, pour le coup, je m'y attendais moins, mais c'est juste magnifique. Toute la côte ouest est très, très sauvage. Et puis alors là, des abris aménagés pour les randonneurs et les cyclistes, tu en as partout. Ce qu'ils appellent les shelters, c'est des espèces d'abris semi-ouverts en bois et qui, en fait, sont répertoriés. Il y en a de partout, donc c'est le paradis pour les cyclistes. Tu as de quoi faire du feu, tu as souvent des toilettes sèches. Tu as même parfois, de temps en temps, de l'eau courante. Donc c'est vraiment prévu et puis très très propre. Hein. Les gens dans le nord sont très respectueux, à la fois en termes de sécurité et puis en termes de propreté. Après, il y a une partie un petit peu plus dure, tout ce qui est Allemagne, Pays-Bas, où en fait j'ai pris beaucoup de vent. Là, j'ai pris 15 jours de vent contraire, tous les jours, 40-50 km/h. Donc c'était assez usant. J'ai eu des petits coups de moins bien là sur cette portion parce que forcément hein, quand tu sors de la Norvège puis le Danemark où tu as vu des paysages ouf, là tu retrouves ce que tu disais, tu retrouves des choses un peu plus connues. Donc il y a moins d'effets waouh et donc du coup les journées se suivaient, se ressemblaient avec le vent, avec des averses par-ci par-là. Et puis après arrivé en France, c'est pareil, j'ai retrouvé des amis dans le nord, de la famille, progressivement, en passant par Paris aussi. Et puis, donc voilà, ça a été un retour à la, à la vie normale, très progressif. Et puis, il y a forcément l'arrivée mi-octobre avec bah, « Je retrouve la famille ». Xavier et Grégoire, mon frère, sont venus me retrouver avec le vélo qu'on avait financé avec, avec la cagnotte. Et mes parents étaient là aussi à vélo. Et puis forcément, ben, les amis proches, le reste de la famille était là. Mon autre frère était là aussi à Blois pour m'accueillir. Donc ouais, non, c'était une journée assez magique. Retour, et puis ouais, assez émouvant de voir Xavier pédaler pendant 90 km. Donc ouais, l'apothéose du retour à la vie. Puis j'avais 3 semaines. J'avais quand même prévu un sas de décompression avant de reprendre le boulot. Donc j'avais 3 semaines où j'ai pu profiter, atterrir un petit peu, retrouver la famille, retrouver les copains. Je suis allé faire un petit van trip dans les Pyrénées avec mon vélo de route déchargé. Donc non, c'était cool.
Et est-ce que tu as été vite dans les Pyrénées avec ton vélo de route déchargé?
Ah, je volais dans les cols, hein. Ah, j'avais jamais trop fait de col avant, j'avais juste fait le tour Malais, c'était juste avant de partir, 6 mois avant de partir. Je me suis mis au vélo il y a 2 ans, hein, donc je suis assez néophyte. Et du coup là, je me suis dit, bah, tiens, il prévoit du beau temps dans les Pyrénées, je vais prendre mon vélo de route. Et ouais, j'ai enchaîné 2-3 cols dans une journée, je volais, sans problème. Et je me suis dit, bah, c'est fou quand même. C'est fou. Le corps humain est capable de s'adapter à plein de choses. Et puis ouais, mes copains me surnommaient cuisse de fer en arrivant, donc j'avais plus trop de problèmes pour monter l'école.
Tu as partagé ton voyage sur Instagram, on en parlait un tout petit peu tout à l'heure, sur ton compte Cycling for Autism. Qu'est-ce qui t'a poussé à partager ton voyage sur Instagram?
Bah, il y a 2 choses principales. La première, bah, c'était pour que ma famille, mes amis puissent me suivre au quotidien. Ça faisait un moyen de fédérer sur un média et puis sur un réseau social de communiquer un petit peu ce qui se passait, mettre quelques photos tous les jours, mettre des petites stories. Ça permettait aux gens de s'immerger un petit peu dans mon voyage et puis d'avoir l'impression un petit peu de participer avec moi. Donc, c'est une volonté de le faire vivre un peu de l'intérieur comme ça. Et puis, le deuxième point, bien sûr, lié à l'association et au but aussi associatif de la démarche, qui était de faire connaître la démarche auprès d'un maximum de personnes, de sensibiliser, essayer de rencontrer des associations en cours de route, partager un petit peu tout ça, donner aussi envie aux gens de s'identifier au projet, de participer, d'en parler autour d'eux. Par le bouche à oreille, en fait, je me rends compte que ça a touché pas mal de monde. Et puis des gens qui me parlaient, des amis de mes parents, des amis d'amis, des gens qui suivaient l'association ou des gens qui étaient sensibles à l'autisme, en fait, qui m'envoyaient des messages hyper régulièrement. Moi, ça m'a donné pas mal de force aussi dans les moments de galère. J'en ai connu un certain nombre, on en a parlé. Quand t'as un jour forcément où c'est un peu plus compliqué, je voyage la plupart du temps tout seul aussi. Donc ça permettait de garder un lien et puis d'avoir des petits messages, un petit coup de boost, tout ça quoi. Et puis en fait, on se rend compte qu'il y a pas mal de gens qui voyagent un peu comme nous, une communauté de cyclos en France. Tu en as eu pas mal sur ton podcast aussi, où des gens qui voyageaient un peu en même temps. Bah, toi, t'es dans quel pays? Tu fais quoi? Et du coup, il y a quelques comptes comme ça, on suivait, on était 10-15. Et du coup, il y en a que j'ai réussi à voir à Tallinn. Il y en a, on n'a jamais réussi à se croiser. Il y en a, on s'est raté de peu sur les Lofoten. Et puis en fait, on se dit, on crée une petite communauté. On se dit, il faut qu'on se voit en rentrant. On s'est jamais vu, mais on a l'impression d'être potes ou de se connaître.
C'est vrai. T'as l'impression de connaître ce voyage. C'est incroyable. Et donc, on va passer sur les 2 dernières questions du podcast, un peu les questions rituelles dans Cyclotopo. Alors, je pense que la réponse va être oui, puisque tu m'as dit tout à l'heure. Mais est-ce que tu as d'autres projets de voyage à vélo, des destinations qui te font rêver?
Alors, dans l'immédiat, ça va être plutôt des voyages plus courts, parce que bon, on peut pas partir 6 mois tous les ans non plus. Je vais faire, trois ou quatre mini-aventures l'année prochaine. Je me suis inscrit avec un copain à la Race Across Paris. Donc, c'est une épreuve de vélo un peu ultra-endurance. Là, on s'inscrit sur un format de 300 km en avril, à faire en 24 heures maximum de mémoire.
Ok.
Donc, on s'est inscrit en duo sous le nom Cycling for Autism. Et puis voilà, je pense que je vais m'inscrire comme ça sur deux ou trois autres épreuves au fil de l'année. Donc voilà, ça va permettre de faire un format un petit peu différent. Je pense que je ferai des week-ends un peu longs en voyage à vélo aussi, peut-être en France, parce qu'il y a plein d'endroits où j'ai jamais été. Donc pourquoi partir trop loin quand le terrain de jeu est incroyable à côté. Donc voilà, après des destinations un peu plus lointaines ou des voyages un peu plus longs, ouais, forcément ça me trotte dans la tête. Alors, je sais pas quand ni comment ni si je le ferai un jour, mais ouais, j'aimerais bien repartir un jour ou l'autre un peu plus loin dans des endroits encore un peu plus dépaysants.
La toute dernière question de cet épisode, est-ce que tu aurais des conseils pour des personnes qui veulent se lancer dans un premier voyage à vélo?
Bon, c'est assez simple et je pense que c'est, je le répète souvent aux gens qui me posent cette question, c'est de foncer. En fait, le plus dur, c'est de décider d'y aller. Une fois qu'on a décidé d'y aller, on se donne les moyens et comme je disais, c'est accessible à tous. Donc même, tu vois, si on a un vieux vélo ou même pas besoin d'acheter un Genesis Croix de Fer pour faire ça, on peut faire ça avec d'autres types de vélos de manière différente. Et voilà, le conseil, c'est vraiment de se lancer. Chacun peut définir ce qu'il a envie de faire et sa propre aventure. Ça peut être une semaine, deux semaines, c'est déjà complètement fou. Tester déjà le format sur un week-end, même un week-end long de 3-4 jours. Partez avec une tente, un réchaud, 2-3 francs de rechange. Testez le bivouac dehors. Il n'y a rien de sorcier, il n'y a pas de peur à avoir. Même s'il pleut, même s'il y a du vent, voilà, les tentes, elles tiennent le coup, il n'y a pas de problème. Et n'hésitez pas à associer une œuvre, une asso, quelque chose qui vous tient à cœur, parce que ça booste et puis ça donne du sens. Et puis, peu importe le niveau, peu importe l'asso et la cause, tant qu'elle vous tient à cœur, ça booste. Et puis chacun peut à sa manière, en fait, on se rend compte que, puis moi je me suis rendu compte qu'à ma manière, voilà, j'avais réussi à aider mon frère, sa famille, Xavier, et de manière un peu plus large, à ma petite échelle, sensibiliser à l'autisme. Donc en fait, c'est accessible à tous, donc allez-y.
Tu as raison, ça, avoir une cause à côté permet de te pousser à avancer quand tu as des petits moments de galère ou des coups de moins bien. Et puis, une fois que tu es de retour à la maison, tu vois aussi que tu as réalisé quelque chose en plus du voyage. Ça doit être assez, assez gratifiant, du coup.
Ouais, tout à fait, ouais.
Je crois que c'est la fin de cet épisode. Je te remercie, Adrien, pour ton beau témoignage. Tu nous as fait découvrir l'Europe et aussi, tu nous as aussi fait découvrir un petit peu plus l'autisme. Donc, merci à toi pour ton témoignage et je te souhaite une belle continuation sur les routes.
Merci beaucoup et puis merci de m'avoir reçu et donné la possibilité de parler de tout ça. Et j'espère que j'aurai donné envie à d'autres de se lancer et de partir avec un vélo en voyage. Merci Claire.
Et voilà, c'est la fin de cet épisode. J'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, vous pouvez soutenir le podcast en nous laissant une note et un petit mot sur Apple Podcasts ou sur Spotify. Je vous le garantis, ça me fera chaud au cœur. Je voulais aussi vous adresser un grand merci pour tous vos nombreux messages que je reçois sur les réseaux sociaux ou par mail. Vos petits mots me mettent toujours le sourire jusqu'aux oreilles. Pour poursuivre l'aventure, nous vous donnons aussi rendez-vous sur notre site cyclotopo.fr. Vous pourrez y retrouver les récits de nos voyages et aussi des astuces pour choisir votre équipement pour le voyage à vélo. Si vous avez des questions sur les panneaux solaires, le matériel de réparation ou encore quel popote choisir pour un premier voyage à vélo, sur Cyclotopo, vous trouverez toutes ces infos. Bon, quant à nous, on se retrouve mardi dans 2 semaines pour de nouvelles aventures à vélo. Ciao !